Un des versets d'introduction de la paracha de Bemidbar. Vous allez reprendre le verset et vous dire de quelle étude nous sommes partis pour arriver à ce texte. Alors, prenez le premier chapitre de Bemidbar, c'est la paracha de la semaine dernière. Tiens, tu dis le livre que je cherche, il est sur mon bureau à plat, il est en train de se perdre là-bas. Il est dans la mer, il n'a pas trouvé le livre. Voilà, il fait lourd.
Tout est ouvert.
Non, c'est pas de votre faute. C'est vrai. Voilà, vous allez reprendre le verset 2 du premier chapitre. Le verset 2. Alors, je prends directement en hébreu. C'est où est trop Shkolada Bene Israël. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, ça veut dire dénombré, mais c'est formulé de manière extrêmement précise en hébreu. C'est où est trop Shkolada. C'est où est trop, ça veut dire élevé, la sept. Étroche, la tête, le geste qu'il y a là, c'est interpeller chacun, compter chacun. Et au moment où on désigne chacun que l'on compte, on le met en évidence par rapport à l'anonymat du groupe. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a là une réalité très périlleuse, sociologiquement et psychologiquement. Dans la culture moderne, on a perdu un peu le tact de ces réalités-là. Ce qui fait que la Torah interdit les dénombrements, sauf lorsqu'il y a des raisons impérieuses qui font qu'il est nécessaire de savoir combien on est. Et c'est un thème qu'on étudie pas dans cette paracha, c'est dans la paracha de Kitissa. Lorsqu'il y a dénombrement, il faut savoir qu'il y a un kofer nefesh, un rachat de la personne qui doit être fait. J'ai expliqué la semaine dernière. Je vais le reprendre très brièvement. Alors, ce qui fait, si vous en souvenez bien, que chacun devait donner la moitié d'un shekel et on comptait les shkalim. On ne compte pas les personnes. Et alors, il y a deux indications ici. D'une part, il faut comprendre pourquoi le fait du dénombrement est considéré comme néfaste et dangereux. Je devrais dire même dangereux plus que néfaste. Et d'autre part, le fait du dénombrement lui-même. Et d'autre part, pourquoi c'est un demi-shekel et pas un shekel? Ça, j'y ferai du genre tout à l'heure assez rapidement. Est-ce que quelqu'un veut dire au bureau qu'il y a du bruit qui me gêne? Je ne sais pas. Ou fermer une porte, ou celle du bureau, ou celle-là. Et chaque fois, ça me fait penser à autre chose. Et donc, qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Oui. Il y a deux problèmes dans le problème du dénombrement, mais je vais commencer par. Ce qu'on entend habituellement, c'est dans une formule un peu superstitieuse que dénombrer, ça porte malheur, ça donne le mauvais œil. Machel Kazé, vous avez sûrement entendu ça. Le Rainara. Oui. Alors, je vais en parler d'abord très, très rapidement, vous direz si c'est suffisamment clair. Les modernes ne sont pas capables de diagnostiquer ces réalités-là. Mais les spécialistes, en particulier les psychologues, sont bien au courant. Il y a des regards mauvais, il y a des regards qui font du mal, et en particulier les regards d'envie. J'ai étudié ces choses-là en ethnologie et en sociologie de la civilisation contemporaine, pas dans les sociétés primitives, mais dans les sociétés européennes. Et il y a des comportements pour se garder de ce danger des regards d'envie. Et alors, on connaît surtout un certain nombre de symboles, des entre guillemets, de signes, de sociétés anciennes. Par exemple, chez les juifs nord-africains, on met une main. Pourquoi ça vous fait rire?
Non, parce que c'est superstitieux.
Voilà, je suis en train de vous expliquer qu'on croit que c'est de la superstition. C'est pour ça que je vous explique tout ça. Et alors, en Tunisie, on met un poisson sur les petits-enfants. Et puis dans d'autres pays, ça doit être d'autres signes. finalement, c'est devenu des bijoux. Et on a oublié ce que ça signifiait par la suite. Mais ça n'avait pas du tout l'intention d'être des bijoux. C'était des signes que la société connaissait pour se protéger des regards dangereux, surtout des regards d'envie. La jalousie, la jalousie est une réalité d'ordre psychosociologique qui est grave. Et il y a des habitudes traditionnelles de vaccination contre ça, je ne sais pas comment dire, de se garder contre. Mais quand on a perdu sa propre tradition, disons folklorique dans le sens positif de tel ou tel peuple, vous savez que ça veut dire folklore, l'étymologie de folklorique, ceux qui connaissent l'allemand connaissent, ça veut dire les traditions d'un peuple considéré. Alors on a oublié ce que ça signifiait. En particulier pour les Nord-Africains, énormément de choses qui allaient de soi, qui étaient connues, qui étaient comprises, sont devenues hermétiques dans le changement de civilisation qui s'est passé à la fin du siècle dernier. C'est-à-dire les parents étaient de culture judéo-arabe du Moyen-Âge et les enfants ont été initiés à la culture française de l'Europe du XXe siècle. Alors imaginez que la traduction était impossible, sauf dans de très rares familles où la traduction puisse faire, où les traditions, comme on dit entre guillemets, ont pu passer avec leur signification positive. Hors de quoi, on risque de croire qu'il s'agit de superstition. Et je vais vous donner un exemple, puisque je vous ai parlé, j'ai étudié cela à l'université. J'ai étudié ça, ce sont des études un peu particulières de micro-sociologie, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Dans un des travaux pratiques qu'on avait en sociologie, et c'était à l'université, pour vous dire que c'était sérieux, entre guillemets. Okay. Alors, on avait été envoyé en usine pour observer le comportement des ouvriers à la cantine de l'usine. Il fallait faire une étude là-dessus. Et je vous donnais un exemple de ce problème. Il fallait expliquer, et ensuite, à l'université, on avait expliqué pourquoi, lorsque les ouvriers s'assoient à la cantine, un en face de l'autre, ils ont exactement le même menu qu'on leur sert sur un plateau. Okay. Il y a un pigeon au petit pois et une bouteille de vin. Et alors, ils échangent leur vin, mais ils ne pensent pas du tout à échanger leur petit pois. Alors, que signifie ce comportement? Alors, voilà un exemple de comportement qu'on serait en droit d'appeler superstitieux dans les sociétés modernes et qui ont une origine folklorique dans le sens noble que je disais. C'est une tradition de civilité, de convivialité qui faisait qu'on échangeait les boissons, on n'échangeait pas les aliments. Oui, si on observe des choses de ce genre, imaginez un Zoulou qui arriverait d'une planète blanche. Eh bien, ils observeraient ça, ils seront superstitieux, ces gens-là. Alors allez dire à ces ouvriers que c'est superstitieux. Ils vont dire, mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Oui, c'est un exemple pour vous dire qu'il faut se méfier de ces jugements-là. Et alors, je vous donne un exemple au sujet de ces... la manière de se protéger contre les regards d'envie, de jalousie. Il y avait des femmes qui n'osaient pas mettre des belles robes par peur que... Alors, elles mettaient leurs robes, mais avec un signe dessus qui faisait dire aux autres, je ne suis pas dupe. Vous avez compris ? Il y avait toute une série, d'ailleurs, de vocabulaire, de manières, comme on disait en Afrique du Nord, pour faire comprendre à l'autre, tu sais, je ne suis pas dupe. C'est une des réactions de civilité. Par exemple, c'était mal vu dans certains pays d'Afrique du Nord, peut-être, je ne sais pas pourquoi je pense surtout en Tunisie, de dire d'un bébé qu'il est beau. On disait, oh, qu'il est vilain. Mais alors, je me rappelle, je ne sais plus si c'est en Tunisie, on avait dit, oh, quel cafard. Et si on le disait au qui de vous, ça devient un scandale. Oui, faites bien attention, tout ça, ça a un sens sociologique derrière. Bon, alors en fait, de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas que compter, ça porte le mauvais œil. Qu'est-ce que ça veut dire le mauvais œil? Aïn hara, en hébreu, traditionnellement, ça veut dire le regard d'envie, le regard de jalousie, plus envie que jalousie d'ailleurs. Et ça fait du mal. Et seulement les modernes font semblant qu'ils sont immunisés, et qu'ils sont, comment dire, immunisés, oui, vaccinés, Mais pas du tout. Il y a des désordres que les psychologues savent, dont les psychologues savent l'origine, et qui viennent de comportements socio-psychologiques, psychosociologiques de ce genre. Il faut savoir que c'est réel. D'ailleurs, le langage a gardé parfois des nuances de langage qui montrent qu'on savait qu'un regard peut tuer. Il y a des œillades assassines. Vous connaissez ça? Il y a aussi des chevilles assassines. Bon. Et alors, les modernes ont perdu le sens de ces choses-là. Mais je reviens à la raison du point de vue de la Bible. C'est que... dénombré. J'aurais deux indications. Vous m'excusez parce que ma toux charabique n'est pas encore passée. C'est encore charab aujourd'hui?
Oui.
Oui, bon. Alors, c'est pas étonnant. Tous les mercredis, hein, vous avez remarqué, il est au rendez-vous. Le rab charabi. Alors, pour revenir au sujet, la première chose, c'est que ça consiste à ramener à un nombre ce qui est une personne. Dénombrer, d'ailleurs, le mot français le dit. Alors, la catastrophe des civilisations, c'est quand elles arrivent à ce que j'ai peut-être appelé la dernière fois, la civilisation de masse. Monsieur Nair avait, j'avais entendu une fois un de ses exposés à propos de Babel sur la massification des sociétés humaines, qui est l'indice de la perte de la dignité de la personne humaine. Dans une civilisation où se produit le phénomène de foule, le phénomène de masse, de nombre, la personne humaine est en danger. Je vais dire comment, j'ai souvent cité cela, quand j'étais étudiant à Paris, comment j'ai perçu cela. C'était quand j'étais obligé de prendre le métro à l'Étoile à 6h de l'après-midi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ou au Châtelet. Bien. Alors vous avez une cohorte de gens silencieux avec le monde en train de lire une notice nécrologique de l'homme du XXe siècle. Il disait, la Bible décède. Puis suivez, c'était un enterrement. De quoi? De la dignité humaine. C'était épouvantable. Pour quelqu'un qui venait de pays où la vie en société était une vie fraternelle, arriver là-dedans, c'était vraiment plus qu'impressionnant. On sentait une civilisation qui est en train de mettre en question la dignité de la valeur géniale de chaque personne pour elle-même. Voilà, c'est ça qui change. Et je pense que c'est évidemment clair. Nous vivons dans des sociétés qui sont en danger de ramener à des numéros d'ordre le numéro de la carte d'identité, ce qui devrait être la personne humaine. Ceux qui ont étudié les premiers chapitres de la Bible en historiographie avec moi, dans les Toladot, se rappellent à quel point c'est la catastrophe absolue dès le début de l'humanité. Je crois que ça vaut la peine que vous étudiez ça, puisqu'on est sur ce sujet. Donnez-moi un livre de Bereshit. Un seul pour moi, hein, parce que je ne veux pas que vous perdiez du temps. Un livre de Bereshit. Enfin, je veux dire. Vous noterez la référence si vous voulez le reprendre. C'est au chapitre 4 de Bréchit, lorsque Caïn a tué Abel. Alors, ce qui s'est produit, c'est que la relation des deux frères, Caïn et Abel, ça on l'étudie dans les chapitres précédents, n'est pas une relation intersubjective égale, équipolante, comme on dit en mathématiques, équivalente. Caïn est né le premier, par conséquent, il a conscience de lui de manière différente que Abel qui est né en plus, qui est né après, mais en plus. C'est-à-dire Caïn se connaît comme étant lui, le fils de l'homme, alors qu'Abel, lui, se connaît comme étant le frère. Et c'est ce que le texte dit. C'est que Abel est né comme frère. Vatosef la Lévec, et Achiv, et Hevel. Elle ajoute à l'enfanté, dit le verset à propos de Chava, de Ève, son frère Abel. C'est pas une indication d'état civil. On voit que l'identité de Abel, c'est d'être capable d'être frère. Et d'ailleurs, tout de suite, on l'apprend qu'il devient berger. Qu'est-ce que c'est qu'un berger? C'est celui qui s'occupe des autres. Et berger, c'est le modèle de l'identité qu'il va chercher dans la vie, l'identité du frère, qui est capable d'être berger. C'est lui avec qui on contractera l'alliance du prêtre. Vous voyez les niveaux sémantiques, mais c'est la même identité. Le frère, c'est quoi? C'est le berger, c'est-à-dire le pasteur, c'est-à-dire le prêtre, c'est-à-dire celui qui est là pour les autres. Oui, l'identité Abel est radicalement différente de l'identité Caïn. Caïn, c'est moi qui existe. Lui est en plus. Alors vous voyez, le problème moral pour Caïn et le problème moral pour Abel ne sont pas le même. Le problème moral pour Caïn, c'est de faire une place à Abel, dans son monde. Tant que Abel ne gêne pas Caïn, il a une place dans son monde, le berger. Le berger qui garde les troupeaux dans le champ, dehors. Mais si Abel gêne Caïn, il le supprime. Parce que le monde, c'est le monde de Caïn. Oui, le problème moral pour Caïn, c'est de faire une place à l'autre, la reconnaissance de l'autre. Et toutes ces morales de la reconnaissance de l'autre sont très importantes, mais elles dévoilent que ce sont le propre de penseurs qui sont de type Caïn et qui découvrent l'autrui. S'il faut découvrir autrui, c'est qu'on est Caïn. Qui c'est Caïn? C'est celui qui a besoin de découvrir autrui. Je ne sais pas si c'est clair. Alors que pour Abel, le problème moral, c'est tout à fait autre chose. Il est moral de nature, il est né frère. Le fait qu'il soit né frère fait qu'il sait qu'il doit mériter d'exister chez l'autre. Il est invité dans le monde de Caïn. Oui, c'est un sentiment de conscience très différent des sujets humains. Et chacun d'entre nous naît plus ou moins Caïn, plus ou moins Abel, c'est des nuances. Hein. Le Caïn à la limite, le Caïn que Caïn, c'est l'assassin. Et je me souviens de Lévinas qui disait, en citant Montaigne, Montaigne disait « le moi est haïssable ». Celui qui dit « moi », lisez Montaigne, « le moi c'est haïssable ». C'est pas joli, « moi ». « Moi » ça veut dire « moi et les autres en plus ». C'est ça que ça veut dire. Dès que je dis « moi », j'annule les autres. Alors c'est ce que Lévinas ajoutait, « le moi est assassin ». Et donc il faut que le « moi » devienne frère. Ça c'est le rôle d'Abel. Le problème moral de Abel, c'est d'arriver à rendre Caïn frère, à fraterniser Caïn. Et s'il réussit pas, il en meurt, tout simplement. Vous voyez que c'est une équation extrêmement importante dès le début de l'histoire humaine dans le récit biblique. Or, j'ajoute une petite parenthèse, les chrétiens en particulier, mais disons les anti-juifs en général, et l'antisémitisme existe depuis bien avant le christianisme d'ailleurs, ont voulu nous accoler le schéma Caïn Abel et que c'est nous Abel et que c'est Israël Abel. Mais c'est un schéma faux. Israël, la figure d'Israël, c'est Chet, l'enfant qui va naître pour remplacer Abel et qui lui est inassassinable. Je le dis très clairement. D'ailleurs, la lignée des Hébreux va descendre de Noé, qui descend de Chet, pas de Caïn et pas de Abel, puisqu'Abel n'a pas de descendance. Abel, c'est un raté de Chet. Abel n'a pas réussi à fraterniser Caïn. Alors il a disparu. Et c'est là où je veux en venir. Parce que les Juifs, inconsciemment, rentrent dans ce cliché et c'est très dangereux pour eux. Pourquoi? Tout simplement, c'est cette espèce de cliché selon laquelle nous avons une mission chez les Goïm. Quoi? Leur enseigner, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme par hasard. C'est-à-dire faire le travail de Abel. Mais... Oui, le piège. Et deux choses. Premièrement, peut-être que Caïn est inéducable. Alors pourquoi on s'entête? Je pense toujours à ce qui est arrivé en Allemagne avec le nazisme. Et nous avons témoigné un jour, au début du nazisme, des rabbins européens, mais surtout des rabbins allemands, qui s'indignaient que les Allemands ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce dont il fallait s'étonner, c'est pourquoi les Juifs étaient assez naïfs pour croire que il fallait rester pour leur enseigner ça. Pris au piège, oui. Oui, si on reprend cette histoire-là, Abel n'a que trois possibilités. Ou bien réussir et faire que Caïn soit capable d'être frère. Nous avons une expérience de l'histoire de l'humanité depuis l'origine qui nous fait penser que peut-être c'est pas possible. On n'a jamais réussi. J'ouvre une petite parenthèse. On a réussi à faire comprendre ça à énormément d'individus. Mais les nations comme telles ne l'ont jamais compris. Et toutes les civilisations ont capoté sur le fait qu'elles n'ont jamais pu intégrer « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On a essayé à Babel, ça n'a pas marché. On a essayé en Égypte, ça n'a pas marché. En Perse, ça n'a pas marché. En Grèce, ça n'a pas marché. À Rome, ça n'a pas marché. Et alors, peut-être que Caïn est inéducable. Ce que j'analyse là, je crois, est très important à comprendre finement. Ça veut dire, au fond, ce serait invraisemblable que notre voyage chez les nations n'ait pas eu un sens. Il a eu un sens. Des individus ont entendu ce qu'il fallait entendre. Mais est-ce que notre histoire, ce qu'a été notre histoire, valait la peine? Est-ce que le nombre des individus qui ont entendu ça valait la peine que notre histoire soit ce qu'elle a été? Il y a des Allemands qui sont chassidés au Mont-Aolam, tu as entendu, tu aimeras ton prochain comme ça, mais il y en a beaucoup même. Mais est-ce que ça vaut la peine de payer le prix du nazisme pour ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je suis en train de vous faire un discours sioniste. Hein, c'est-à-dire, le sionisme, ça consiste à prendre acte que c'est un échec, qu'il ne faut pas nous raconter des histoires, la mission du peuple juif chez les nations. C'est ça le sionisme, il n'y en a pas d'autre. Hein. Et alors qu'en en fait, il y a une seule mission du peuple juif chez les nations, c'est de gagner l'argent pour en envoyer à l'État d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Moi, j'en vois pas d'autre. D'ailleurs, c'est ça qui se passe. Quand ça se passe. Et c'est pourquoi je dis souvent que nous avons intérêt à ce que ce soit la chrétienté qui devienne la diaspora d'Israël. Peut-être la Macbeth se porterait mieux. Vous savez le nombre de juifs qui n'ont jamais mis les pieds en Israël comme touristes, même pas comme pèlerinage en Terre Sainte. Et ce sont en général ces mêmes juifs qui disent « Nous avons une mission chez les nations ». Vous voyez, ça c'est Abel devenu fou. Vous savez comment on dit en arabe « Hebel ». Hebel, c'est Hebel. Et Hebel Avalim. Non, j'ai lu, ne m'interrompez jamais comme ça. Tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Et alors, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, il y a pour Abel, il n'y a que trois possibilités. Ou bien réussir à fraterniser Caïn, mais ce que je disais, peut-être Caïn est inéducable. Et si on pense, ce que c'est que les SS, est-ce que les SS sont éducables? Regardez comment ça reprend en Allemagne. Et avec la complaisance des journalistes. Les médias sont en train de faire la propagande de ces choses-là, apparemment pour les combattre, mais c'est ça qui fait que ça se développe. Je ne sais pas si c'est clair. C'est ça qui fait que ça se développe. Parce qu'il faut bien que les médias gagnent leur vie. Et j'espère que je froisse personne, mais au jugement dernier, il y aurait un procès particulier pour les journalistes. Là, c'est évident. Pour les journalistes, oui. Ah, ça fait la famille. Et alors, la deuxième possibilité, c'est s'il a échoué de se laisser tuer. C'est ce qui est arrivé à Abel. Okay. Je vais vous raconter comment le Midrash le raconte. Et puis la troisième possibilité, c'est de s'enfuir. Or, les Juifs s'entêtent, premièrement, à éduquer l'inéducable, deuxièmement, à se laisser tuer, et troisièmement, à ne pas s'enfuir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. Enfin, grâce à Dieu, il y a des exceptions. Mais c'est peut-être à ça que la Torah, que la Bible pense en parlant de Ve'aya She'erit Israël, le reste d'Israël. Nous sommes un reste de rescapés au 13e degré de cette histoire-là. Parce que, avec cette imprudence d'avoir accepté ce schéma, qui n'est pas le schéma Israël, si j'ose dire. Ce n'est pas du tout ça. Ça c'est l'équation. Impossible. Abel n'a pas d'existence. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle Hevel. En hébreu, ça veut dire le souffle, la buée, l'évanescent, l'éphémère. C'est ça, Hevel. Le vide, la vacuité. Hevel en arabe. Maboul en français, c'est Maboul en arabe. Ça veut dire celui qui a la tête pleine de vide. C'est ça, Maboul en arabe. La tête pleine de vide, quoi. Un écervelé. Et alors, en réalité, la Torah nous apprend lorsque Abel a été tué, il y a toute l'histoire de la lignée de Caïn qui s'est fondée sur cette équation de la suppression du frère. Alors, quand vous étudiez l'histoire de la lignée de Caïn, c'est l'histoire de la société qui devient impersonnelle, fonctionnelle, qui devient, comment dire, fourmilière. J'étais en train de penser à un roman d'anticipation, mais il y a longtemps, Le Dernier des Mondes, je crois que ça s'appelle, quand la société humaine devient une société de robots. C'est le danger des municipalités, vous voyez. Dans la municipalité, il y a le danger que la fonctionnalisation substitue l'administration des citoyens au problème moral de la relation des personnes. Vous voyez, d'ailleurs, en Israël, c'est très désagréable quand on a affaire à ces fonctionnaires de type bolchevique, des fondateurs du pays, et le papa est en général, qui fonctionnent vraiment comme des machines, quoi. Sans yahas à la personne humaine. Quand ça envahit les tribunaux rabbiniques, c'est encore pire que tout. Et vous voyez ce genre de danger qu'il y a. On est en plein sujet de la transformation d'une personne humaine en un numéro d'or. Mamis paratik. Vous voyez tout de suite. On ne demande pas qui tu es. Vous voyez ce danger du fonctionnement de la cité. Alors en fait, la Torah va nous décrire les 10 générations de la lignée de Caïn, 7 générations depuis le fils de Caïn, et puis l'échec à Babel. Avant l'échec à Babel, c'est au déluge. Bien. Avant l'échec au déluge, il y a un sursis qui est donné à l'humanité. Dieu va susciter une autre lignée que la lignée de Chet. La lignée de Chet, Chet va naître, dit la Torah, Tachat Hevel ki ha'ago Caïn, à la place de Abel, que Caïn avait tué. Or, Chet, lui, est inassassinable. C'est un Abel inassassinable. Chet, ça veut dire quoi en hébreu? Vous connaissez la racine Chit, Chat, Chut, ce qui est Stav, hein, et Ben Ashtia. C'est pas la pierre des libations, Ashtia. C'est Tashtit, voilà. La racine de la cime, c'est la Chit. Eh bien, donc, Chet, c'est un Abel, le berger, mais inassassinable. Et vous voyez qu'Israël a le rôle de Chet. On essaye de l'assassiner, on n'arrive jamais. Mais il n'a pas le rôle de Abel. Alors le danger, je crois que c'est nécessaire de mettre ça au clair, le danger pour les Juifs, c'est de se penser à Abel alors qu'ils sont Chet. Vous avez compris le problème. C'est bien clair. Hein. Mais dans, chaque fois, dans, remarquez, regardez, je vous rappelle la conversation de De Gaulle après son fameux discours à Strasbourg sur le peuple d'élite, sur de lui et dominateur, avait eu une conversation avec le professeur Stein. J'ai entendu parler du professeur Stein, qui était d'ailleurs son médecin urologue, bref. Et alors il lui a dit, mais vous êtes si beau dans les psaumes, vous êtes si beau dans votre liturgie. Et alors le professeur Stein, il nous a raconté, on est très liés, lui a très gentiment fait remarquer, nous sommes si beaux crucifiés. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça. Les goïms s'énervent quand on n'est plus des juifs courbés, quand on n'est plus des juifs de ghetto, quand on n'est plus des juifs de cour. Et alors, c'est pourquoi ils n'aiment pas les Israéliens. Ils aiment Israël, mais pas les Israéliens. Parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas, ça, ce n'est pas des vrais juifs. Ils sont tout droits. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Et alors. Les Haredim, au moment de la Shoah, et nous avons des textes, ça fait dresser les cheveux sur la tête, mais disait très clairement, l'honneur des Juifs, c'est de se laisser assassiner. Je ne sais pas si vous avez entendu ça ou lu ça. Et un grand spécialiste de ces problèmes-là, des Haredim, et surtout de la réaction à la Shoah, c'est le professeur Friedman de l'université Bar-Ilan. Si un jour vous trouvez un livre du professeur Friedman, lisez-le, parce qu'il a des sources, surtout sur les... La chassidoute de Benz, comment les... Bon, je ne vais pas faire de la chandara sur ces gens-là, c'est le bon Dieu qui les jugera. Mais comment il y avait cette doctrine-là, il faut se laisser abéliser. Et c'est ça l'entre-honneur. On est plus fort en se laissant massacrer par ces crapules d'Allemands que ce à quoi jouent les sionistes du ghetto de Varsovie ou les bouddhistes du ghetto de Varsovie de faire la révolution contre les Allemands. Ça, c'est interdit pour les Juifs. Exactement ce que le Rav Avraham Yosef dit des Arabes. Il ne faut pas s'opposer aux Arabes, c'est interdit. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le piège dans lequel la sensibilité religieuse juive tombe dans un cliché que les chrétiens nous ont, comme on dit en français, nous ont accolé, que nous sommes Abel de Caïn. Vous avez compris? Mais il faut se méfier. En réalité, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Chet. À partir de Noir, qui descend de Chet, elle s'arrive à Ever, de Ever à Abraham, d'Abraham à Jacob, et c'est ça Israël. Voilà, il faut bien comprendre ça. Bon, alors en fait, on apprend au début du chapitre 4, qui raconte l'histoire de Noé et de Caïn, que Caïn a eu un fils et a nommé son fils, non, il n'a pas nommé, il a eu un fils qui se nommait Hanoch. Je vais vous lire le verset. Vayedar, Caïn et Tishto, je cherche le numéro du verset. Ça doit être 17. Voilà. Alors notez, chapitre 4, verset 17. Vaïda fait une étichto, et Caïn connut sa femme, Vatahar, elle conçut, Vatahar et Hanor. Et elle enfanta Hanor. Alors vous voyez, l'expression ici, il faut bien la comprendre. Ce n'est pas l'expression habituelle. Et Nachmanide met l'accent en disant l'expression habituelle, c'est elle enfanta un fils et lui donna le nom de. Nachmanide dit, il faut comprendre comme si c'est la même chose. Mais pourquoi il nous dit ça? C'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas la même chose. En effet, quand l'expression dit elle a un fils, elle lui donna le nom de, elle lui donne un programme d'identité. Tu seras ceci. Tandis que là, l'expression « elle enfanta Hanor », ça veut dire qu'il ne peut pas s'appeler autrement. C'est son identité qui est de naissance. Elle enfanta quelqu'un qui est de naissance Hanor, de nature Hanor. Et Hanor, c'est la racine qui veut dire l'éducateur. Alors voilà, je vous dis ça très très rapidement. L'équation de frère à frère a été supprimée, a échoué. Alors Dieu a suscité l'identité fils à la place de l'identité frère pour sauver la relation d'autrui à autrui qui est en question dans la société humaine. Je vais essayer de vous expliquer rapidement et vous me direz si c'est assez clair. Vous voyez, c'est très difficile à l'homme de résoudre la relation à autrui quand l'autrui est le frère, parce que les frères sont rivaux. C'est clair. Les frères sont rivaux. Regardez, le mythe de la fondation de Rome le montre bien, Romulus et Rémus. Pour fonder la cité, il faut que l'un tue l'autre. Et dans ce mythe, on félicite l'assassin. Parce que c'est grâce au meurtre du frère qu'il a fondé la cité. Et c'est cette cité romaine qui deviendra la cité de droit romain, c'est-à-dire du légalisme, de la légalité qui remplace la moralité. C'est Rome. Et j'ai oublié d'ailleurs lequel tue l'autre. C'est Romulus qui a tué Rémus ou Rémus qui a tué Romulus. Vous ne savez pas, c'est pas grave. Bon. Puisque c'est un mythe, nous sommes anti-mythes. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez que c'est un thème de l'origine de l'histoire de l'humanité. À Rome, eh bien, Caïn a tué Abel, on félicite Caïn, grâce à ça, il a fondé la cité. Ça, c'est revenu, c'est revenu. La Bible, elle condamne. On a supprimé le frère, l'histoire humaine va à la catastrophe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. D'ailleurs, nous avons dans la Chassidou de l'Arman de Bratislava, une très jolie image. Ce sont les gens qui sont les plus proches qui sont rivaux. Parce que, rivaux, parce qu'ils s'allaitent au même sein. Et comment on dit ça? Non, je ne voulais pas dire mamelle. Non, mais vous savez que les gens purs reconnaissent des seins. Saint truc, saint chose. Et alors, parce qu'ils s'abreuvent à la même source. Voilà, on pourrait dire ça. Et alors, c'est pourquoi la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec le lointain, il n'y a pas de problème. Le lointain, on peut s'arranger. Mais avec le prochain, c'est là que le problème se pose. Et alors, tout se passe comme si, on voit qu'on a pris acte, qu'avec le frère, c'est trop difficile. Alors on va essayer la relation avec le fils. L'autrui, c'est le fils. Le fils est plus facile à aimer que le frère. Et effectivement, vous voyez, la religion chrétienne, qui est une religion romaine, a le culte du fils, pas du frère. Vous avez remarqué ça, okay? C'est-à-dire qu'il faut passer par la grâce du fils pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même. Regardez comment ça fonctionne. Okay? C'est bien la religion de Rome, ça. Et alors, je vais raconter, j'étais très impressionné la première fois que j'ai assisté à la messe de minuit à Bethléem, devant mon poste de télévision. Alors, le corps diplomatique qui était conduit par l'ambassadeur de France qui avait dans les bras un bébé en celluloïde avec une dignité extraordinaire qui s'approchait de l'autel avec une révérence. Voilà, le fils sauveur. Je me suis dit, ribonos ces gens-là, mais ils sont fous ces gens-là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis mis à réfléchir et j'ai compris ça. J'ai compris. Pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Le fils est sauveur. C'est grâce au fils qu'on aime l'autre. Le fils est aimable. Vous voyez, c'est le fils, c'est le salut du monde. Voilà, c'est la religion du fils. Comme disent les Algériens. Bien. Le fils. Et alors, voilà, jusque-là c'est clair. Bien. La catastrophe, c'est la suite du verset. Vaïhi bonéhir, et Caïn construisit une ville, Vaïkra Shemaïr Keshem Beno Hanor. Et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Hanor. Il donne à la ville le nom du fils. La catastrophe. On prend le nom à la personne humaine et on le donne à la ville. Oui, la personne humaine est sacrifiée à l'administration de la cité. Cette catastrophe-là fait que la société va devenir fonctionnelle. Il n'y a plus de personnes, il n'y a que des métiers. Et on arrive, vous vous rappelez, les mères qui ont 4 enfants, un c'est Tuvalcaïn, l'autre c'est Yaval, l'autre c'est Yuval, je vais vous dire les versets. Voilà. Verset 20. Vatele Aida et Yaval. La première femme de l'émer qui s'appelle Arada. Arada, ça ressemble à Aida, l'assemblée. Non, mais j'ai pas de source, hein. Je dis ça comme ça. Arada, il y a des femmes juives qui s'appellent Arada en Israël. Elle enfante Yaval. Yaval était le père des agriculteurs, Yoshev Ohel Umikne, des bergers, ceux qui habitent la tente et le troupeau. Veshem Achiv Yuval, le nom de son frère c'est Yuval, ou Aya Avi Koltofes Kino Veugav, qui est le père des artistes. Vous voyez, et on a tout de suite la civilisation agreste, le berger et le violonneux. Vous voyez, c'est les métiers. Je continue les deux ordres d'enfants, vous verrez que lorsqu'on fait l'analyse d'une cité impersonnelle, on trouve ces 4 indications. Et alors que Tsila, l'autre femme de l'émer, elle aussi a enfanté Tuvalcaïn, et Tuvalcaïn c'est le Vulcain de la mythologie grecque, c'est-à-dire le forgeron, celui qui forge des outils et qui, en forgeant les outils, a forgé les armes. Marcel Dassault. Hein? L'otèche, Kol Choresh, Nechoshet ou Barzé. Celui qui, l'otèche, qui est poli, et tout ce qui est fabriqué de bronze et de fer. Et Achot Nuvalcaïn, Naama, et la sœur de Tuvalcaïn, Naama. Naama, c'est la douce. Je n'ai pas parlé de Irma la douce, mais c'est le même métier. C'est-à-dire, vous avez les 4 fonctions de Naama, en hébreu, c'est-à-dire les 4 fonctions d'une cité. Chaque fois que je me balade à Paris, dans le 9e arrondissement, je vois tous les métiers récapitulés dans les affiches de publicité. Vous avez tout ce qu'il faut pour amener la nourriture sur la table. Alors vous avez, c'est compliqué, c'est différencié aujourd'hui. Tout ce qui vient de l'agriculture. C'est les boîtes de conserve diverses et avariées. Et puis, les arts, la musique, le cinéma, le théâtre, pour distraire ceux qui font à manger. Et puis, vous avez tous les métiers pour fabriquer la cité, pour les outils, ça commence par les outils, donc les armes. Et vous avez les filles de plaisir dans les cabarets pour les distraire. Voilà, c'est la cité fonctionnelle, le 9e arrondissement à Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. On ne peut pas être frappé par ça. La cité devient fonctionnelle. Et là-dedans, vous avez des petites communautés juives, dans le 9e arrondissement, qui essayent de jouer au Abel. Et alors, ils sont comme des moutons, ça belle. Bon. Voilà, je vous ai fait une analyse de ce que la Torah nous enseigne. Écoutez, quand je parle, ne m'interrompez pas. Je vous le répète 1000 fois. Ça me fait oublier ce que je suis en train de dire. Ça suffit. Ça suffit, mais ça suffit. Non. Écoutez, je vais dire une dernière fois. Quand je suis en train de parler, ne levez pas le doigt, ne faites pas de signe. Vous attendez que j'ai fini, et après vous posez votre question. Mais jamais au milieu d'une phrase. D'ailleurs, le Shulchan Aruch, qui est très intelligent, a codifié ça. C'est interdit de rentrer dans les paroles de quelqu'un d'autre. Birla. Ah oui, tu m'as fait oublier ce que j'étais en train de dire. Alors, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu voulais dire?
Oui, je peux te demander, pour éclairer un peu moi, je voudrais savoir, si peut-être je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit, qui était la femme de Caïn? Comment s'appelait la femme de Caïn?
On ne nous dit pas.
Hein?
On ne nous dit pas.
Ah bon?
Mais pourquoi tu demandes ça?
Non, moi, ça m'est venu comme ça, je me dis.
Attendez. Attendez, que je comprenne la question. Non, tu ne demandes pas comment elle s'appelle.
Non,
tu demandes d'où elle sort.
C'est ça.
Non, non, la question, c'est une bonne question.
C'est pour ça que
j'ai entendu. Ça y est, j'ai entendu. Non, non, c'est une bonne question, je vais expliquer. Parce que le sens de la question, c'était, j'ai un livre qui s'appelle le Sedera Dorot, et on nous donne le nom de tous ces personnages dont la Torah ne demande pas les noms. Enfin, c'est pas tellement important de savoir qui était la femme de Caïn. Mais vous rappelez que le premier homme est né avec sa jumelle, Ève. Zacharon Keva Vera. Par conséquent, de la même manière, Caïn est né avec sa jumelle, et Abel avait deux jumelles, je vous montrerai dans le texte. Et l'objet de la querelle entre Caïn et Abel, pour le Midrash, c'est la deuxième jumelle. Alors, vous allez pas prendre, c'est moi qui vais prendre le verset. C'est au début du chapitre 4. Voilà, pour Caïn, le verset dit, pour la naissance de Caïn. Voilà, elle enfanta Caïn. Vous savez qu'en hébreu, le complément d'objet est introduit par une préposition qui est la préposition est. Et on appelle ça en grammaire l'accusatif. Est. Et alors, qui désigne le complément d'objet. Parfois, on l'emploie, parfois on ne l'emploie pas. Mais donc, quand on l'emploie, il y a une intention. Et quand vous traduisez un verset, s'il y a « et » ou s'il n'y a pas « et », le sens n'est pas le même. Je vous donne un exemple. Une minute. Si je veux dire « j'ai pris le livre » et que je dis « la carte à Sefer ». Et si je dis « la carte est à Sefer », quelle est la différence? Vous avez... Non, je n'ai pas dit « ce ». Je n'ai pas dit « à Sefer à Z ». La carte est à Sefer, j'ai pris le livre. La carte est à Sefer, j'ai pris le livre. En français, on ne voit pas la différence. Mais en hébreu, quelle est la différence? Non, c'est ce qu'elle vient de dire. La carte est à Sefer, ça ne veut pas dire ce livre en particulier. Ça... Dans le contexte, ça pourrait dire le livre dont tu viens parler, dont tu viens de parler. Mais ça voudrait dire ce livre, il faudrait être démonstratif. La carte est à Sefer à Z. Et en général, on ne voit pas la différence. Je vais donner un exemple. Le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et Haaretz. On traduit comme s'il y avait écrit Bereshit bara Elokim Hashamayim ve'et. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est parce qu'il y a écrit. Il y a le et des cieux et le et de la terre. C'est ça l'objet du créé. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça me prendrait une heure. Simplement pour vous montrer qu'on ne sait pas lire ce qu'on lit en hébreu. Bien. Et si les plus avancés parmi vous, prenez Nahmanit sur ce verset, il va traduire « et etzemadavar ». Je le disais dans Nahmanit, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une notion qu'on ne peut pas exprimer en français. Je vais vous la décrire. La carte à Sefer, j'ai pris le livre, l'objet qui est le livre. La carte est à Sefer, j'ai appris ce qu'il y avait dans le livre. J'ai pris l'essence du livre. Et la meilleure preuve, c'est qu'une leçon, ça se dit « l'écart ». Ça, c'est une coïncidence. Hein, vous voyez. Du même verbe que la koa. Hein. C'est clair. Et alors, vous voyez, ça, c'est l'hébreu de la grammaire rabbinique, de la grammaire talmudique. Hein. La carte est. Bon. Alors, chaque fois qu'il y a est, ça désigne quelque chose qui va avec ce que l'on désigne. Et a aussi le sens de aim. Donc, il y avait quelque chose avec Abel, c'est-à-dire avec Caïn. Il y avait aussi avec Abel. Ce et qu'il y avait avec Caïn, c'était sa jumelle. Alors, comme il y a pour Abel une fois.